On continue une petite étude qui a rapport avec le retour du Seigneur. Puis qu'est-ce qui va se produire dans ces événements-là qu'on attend bientôt, qu'on attend de tout notre cœur? Je ne sais pas pour vous comment ça se passe, mais pour moi, j'y crois à 100 000 à l'heure. J'ai hâte que ça arrive. J'ai hâte que Jésus revienne. J'ai hâte qu'il descende puis qu'il vienne établir son royaume sur cette terre. C'est ce qu'on attend ardemment. C'est ce qui fait partie de notre prière aussi. Quand on prie la prière du Notre Père, parce que c'est un exemple de prière qu'on peut demander à Dieu. Il dit que ton règne vienne. C'est le règne de Jésus-Christ, ça. Ça part du retour de Jésus, puis qu'il s'installe pour que son règne vienne sur cette terre, puis que sa volonté soit faite sur la terre comme qu'elle l'est au ciel. Sa volonté doit être faite, puis ça va être sa volonté, parce qu'il va pas être les nations qu'une verge de fer. On va le voir dans des passages aujourd'hui, on va parler un peu de tout ça comme de l'introduction sur le règne des mille ans, ce qui va se produire quand Jésus va arriver sur cette terre. On a déjà vu que lorsqu'il arrive, il va se passer l'enlèvement des croyants, la résurrection de ceux qui étaient morts, fait que les deux ressuscitent. Il y en a qui n'auront pas passé par la mort, vont rejoindre ceux qui étaient morts et sont ressuscités. On va être tous des êtres ressuscités avec Jésus sur un nuage, à l'enlèvement. Mais en même temps, Jésus revient pour juger les nations qui sont là, les nations qui sont rebelles. Il va venir pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas au Seigneur Jésus-Christ. Et parce que des fois, on peut le connaître et être des gens qui désobéissent. On peut ne pas vouloir le suivre, pas vouloir faire sa volonté, puis même faire des affaires graves que Dieu déteste, puis que Dieu n'est pas capable d'endurer ça. Puis des fois, il y a des chrétiens comme ça qui pratiquent des péchés très graves. C'est pour ça que j'encourage à lâcher tout ça. S'il y en a qui sont pris dans l'esclavage de péchés devant Dieu, faut lâcher tout ça immédiatement afin qu'on soit prête. Parce qu'il arriverait aujourd'hui, là, faut être déjà dans le bon chemin aujourd'hui. Pas dans un chemin parallèle ou un chemin qui s'éloigne. Il n'y a pas d'autre chemin que le chemin de Jésus, quand une fois que tu es rentré par Jésus. Fait que le Seigneur va revenir sur une nuée, puis il va venir prendre le contrôle. Puis là, des fois, il y en a qui croient pas dans leur doctrine que Jésus va revenir physiquement. Il y en a que dans leur doctrine, ils pensent que Jésus reviendra pas, puis c'est les chrétiens eux-mêmes, par leur effort, qui vont établir le royaume de Dieu sur la terre en convertissant tout le monde. Ça n'a aucun rapport, c'est pas biblique, c'est pas que ce que la Bible dit, parce que la Bible dit que Jésus, quand il va revenir, il va revenir en mettant physiquement ses deux pieds sur le mont des Oliviers. C'est écrit dans la parole de Dieu que lors de son retour, Jésus mettra ses pieds physiquement sur le mont des Oliviers qui est à Jérusalem. Jésus revient avec les sauvés. Comme qu'on a dit, il revient du ciel, il est encore dans le ciel, que là, il nous ramasse la gang. Jésus revient avec les sauvés, puis remettra les pieds sur cette terre avec les sauvés. C'est qui ça, les sauvés? C'est nous, ceux qui ont accepté Jésus, puis qui marchent avec Jésus. Nous sommes les rachetés de l'Éternel. On va ressusciter, on va avoir eu part à la première résurrection, puis on va être avec le Seigneur dans un corps qui... peut-être semblable, peut-être le même modèle, je ne sais pas, mais ça va être un corps différent parce qu'on ne sera plus tenté par le péché. C'est un corps corruptible qu'on a présentement, on va avoir un corps incorruptible, puis on va avoir aussi un corps immortel. Ça va être, il n'y a pas de plus grande et plus précieuse promesse que cela. Je pourrais dire, on a fini à Réunion, puis déjà, on en masse de savoir qu'on va devenir des immortels, mais c'est pas encore fait. On n'est pas encore rendu, faut pas se relâcher, faut persévérer jusqu'à temps que Jésus revienne, peu importe ce qui arrive sur la planète. Dans Zacharie 14, les versets 4 et 5, ça dit, c'est à l'autre verset avant, parce que des fois, des Bibles, ça le dit quand même ce que je veux emmener. Il dit, ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. Le mont des Oliviers. Saviez-vous c'est quoi le mont des Oliviers? C'est un mont qui a eu plusieurs activités que Jésus a faites autour de ce mont-là. Quand il a été chanté ses cantiques dans le jardin, quand il y a eu l'entrée triomphante qui a pris, a embarqué sur un âne, c'était juste à côté là, du mont qui a embarqué sur l'âne pour entrer. Quand il a parlé avec ses disciples de voir le temple, puis la beauté de la construction, puis tout ça, puis qu'il a dit qu'il y a les prophéties qui annonçaient la destruction, Jésus était sur le mont des Oliviers. C'est un mont qui est à Jérusalem, un des monts, puis ce mont-là est important. Il y a eu plusieurs événements que Jésus a fait à cet endroit-là, puis il y en a d'autres que je vais vous dire là-dessus. Mais ça nous dit que l'Éternel combattra les nations. Il dit, il va mettre ses pieds, parce que le verset qui était avant, ça dit, l'Éternel combattra les, paraîtra et combattra les nations comme il combat au jour de la bataille. Ça, c'est la bataille d'Armageddon, quand je vous dis qu'il va détruire la multitude dans ce monde. Il dit, ses pieds se poseront en ce jour-là. La suite après la bataille, dans ce jour-là de la bataille, ses pieds vont se poser ce jour-là sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. Puis là, ça dit que la montagne va se séparer en deux, puis va se former une grande vallée entre les deux. Il va y avoir un changement géographique parce que la Bible nous parle d'un immense tremblement de terre qui va avoir lors de cette bataille-là, que toutes les villes des nations vont s'effondrer, puis il va y avoir un tremblement de terre qui va changer aussi l'aspect de Jérusalem. Ceux qui veulent des versets là-dessus, j'en ai parlé, je peux vous les redonner de toutes ces idées-là que je vous dis là présentement. Puis ça dit... après que ses pieds se poseront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers, au verset 5, va à l'autre verset par la suite, il dit qu'ils vont fuir, les Juifs qui vont rester de survivants vont fuir à travers les montagnes. Puis à la fin du verset 5, ça dit, « Et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec lui. » Ça va être un moment spécial parce que Jésus descend corporellement sur la terre, met ses pieds sur la terre, la montagne va se fendre en deux. Il y a des Juifs qui vont pouvoir se sauver par là, les ceux qui vont survécu à la bataille d'Armageddon. Puis nous, les saints, les sauvés, les ressuscités, on est avec Jésus. On va être avec Jésus à Jérusalem, puis on va suivre Jésus partout où est-ce qu'il va aller. Ça dit, on sera toujours avec le Seigneur. Dans d'autres versets. Ça va être un moment spécial, puis un moment historique, parce que le retour de Jésus s'est annoncé, puis on continue à en parler, puis on va prophétiser ces événements-là jusqu'à temps qu'ils reviennent. Puis même quand ça l'arrive, on va être dedans. On va l'expérimenter de vivre cet événement-là. Vous ne croirez pas ça. Moi non plus. On va le croire parce qu'on va être là, mais ça va être au-delà de ce qu'on peut imaginer. Cette montagne, c'est la même montagne que Jésus est monté au ciel devant les disciples. Quand Jésus est apparu pendant 40 jours après qu'il soit ressuscité, il parlait avec ses disciples, puis maintenant, à la 40e journée qu'il parlait avec ses disciples, il est en train de parler avec eux, puis pendant qu'il leur parlait, il a commencé à monter. Puis il a disparu des nuages. Puis là, il y a deux anges qui ont apparu, puis qui ont commencé à parler aux disciples. Puis ça dit, les anges ont dit aux... Dans Actes 1, 11, ça dit, « Homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Ça, il est... Puis là, ça dit, « Alors, ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers. » Il était sur le mont des Oliviers quand Jésus a monté, puis les anges ont dit, il va revenir de la même manière, puis il va mettre ses pieds sur le mont des Oliviers, qui va se séparer en deux lorsqu'il reviendra. Wow! Quand il dit qu'il va revenir de la même manière, c'est même aussi à la même place qu'il est parti. Puis autant qu'il a monté de même, qu'il a monté, puis il a disparu dans le ciel, il va revenir du ciel, Jésus, avec tous ses saints et ses anges, puis ils vont redescendre pour venir mettre ses pieds sur cette montagne-là. Son retour avec ses saints, c'était déjà prophétisé depuis le début de la création par un prophète qui s'appelait Enoch, le septième depuis Adam. Parce qu'Adam a eu des enfants, puis le septième qui s'appelait Enoch, lui, il plaisait à Dieu, puis il a fait une prophétie, puis il a annoncé le retour de Jésus avec ses saints. Puis là, c'était répété, cette parole-là, dans Jude, au chapitre 4, au chapitre 1, il n'y a rien qu'un chapitre, les versets 14 et 15. C'est aussi pour eux qu'Énoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. Des myriades, ça c'est un nombre. C'est des milliers, des milliers, des milliers. Ces saintes myriades reviennent avec le Seigneur pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ils ont proférées contre lui, des pécheurs impies. Voyez-vous, Jésus, quand il entend le monde le blasphémer, quand il entend le monde le ridiculiser, où il dit, je ne peux pas être ça, il rit. Parce que ça arrive, des fois, on passe des pamphlets, on parle de l'amour de Dieu, puis les gens, calme-moi pas avec ça, je veux rien savoir. Mais ils sont en train de rejeter Jésus. Parce que Jésus l'a dit, celui qui vous rejette, me rejette. S'il rejette, s'il nous rejette, il rejette Jésus, puis il rejette Dieu le Père. Fait que ces gens-là, ils vont rendre compte de chaque parole vaine qu'ils auront proférée contre lui. Mais c'est annoncé depuis le début de la création que le Seigneur reviendrait avec ses saintes myriades. Puis ça va être l'accomplissement de ce prophétie-là lorsque Jésus va revenir. On va être avec lui, puis c'est ça que je trouve spécial, parce qu'on cherche à savoir où est-ce qu'on va être dans cette histoire-là, dans ce scénario-là, mais on va être nulle part qu'ailleurs qu'avec Jésus. On va être avec lui, puis on va voir de nos yeux tout ce que Jésus va appliquer, parce qu'il est venu pour, il va revenir pour accomplir la parole de Dieu qui est annoncée, puis qui n'est pas encore finie. Quand il était sur la croix, qu'il a dit « tout est accompli », c'était « tout est accompli » de ce que lui devait faire sur la terre en tant que vivant. Mais il est ressuscité, puis il y a d'autres choses, il y a d'autres prophéties qui s'accomplissent, puis il y en a d'autres qui vont s'accomplir quand Jésus va revenir. Puis il y en a des prophéties jusque dans l'éternité. Le Seigneur deviendra, à ce moment-là, quand il va revenir avec ses disciples, ces myriades, ces millions de personnes qui vont l'accompagner, c'est nous les sauver, les racheter. Le Seigneur deviendra le Seigneur de toute la terre. Je l'ai dit déjà, la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme, sauf que Dieu l'a prêté aux hommes pour un temps temporaire, puis le diable en a profité pour prendre son autorité, puis établir son royaume des ténèbres ici-bas. Mais Jésus va revenir, puis il va devenir le Seigneur de toute la terre. Puis ce sera le début du règne du Seigneur pour des milliers d'années. Par la suite, à cause qu'il est revenu, il n'y aura plus aucun autre nom d'un Dieu quelconque sur la terre. Il n'y aura pas d'autre Dieu qui va être célébré que le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu trois fois saint, l'Éternel des armées. Tous les noms, c'est le seul Dieu, puis c'est Jésus-Christ, son envoyé, qui est Dieu, mais il est là pour faire son rôle en tant que fils, parce qu'il nous a été donné dans un sens, comme la prophétie disait, qu'il viendra un fils qui nous sera donné, puis ça, il sera appelé Dieu puissant, puis Père éternel. Puis c'est ce qu'il est. Jésus, c'est le Dieu tout-puissant, c'est le Père éternel qu'on voit dans la forme de Jésus. Il existait en forme de Dieu, puis il existait un bout en forme d'humain, puis il est retourné dans sa gloire, puis il a réobtenu sa position qu'il avait auprès de Dieu après sa résurrection. Fait que Jésus va revenir sur la terre, prendre son règne, puis il n'y aura pas d'autre Dieu sur la terre, puis aucun autre nom qui va être mentionné comme un Dieu. Dans Zacharie 14, le verset 9, ça dit « L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul éternel et son nom sera le seul nom. » Déjà, la Bible, elle dit que c'est le seul nom qui a été donné aux hommes par lequel on peut être sauvé. C'est le nom de Jésus-Christ. Mais dans ce moment-là, il n'y a même plus aucun autre peuple sur toute la planète, de tous ceux qui vont repeupler la terre, il n'y aura plus aucun autre nom qui va être prononcé que le nom de Yeshua. Dieu le Père. C'est le Tout-Puissant. C'est lui le vrai Dieu et la vie éternelle. Que ça nous dit dans Jean. Jérusalem deviendra la ville royale. la capitale mondiale du Seigneur. Parce que lui, il va être le roi de la terre. Fait que sa capitale, c'est Jérusalem. C'est la ville du grand roi. C'était annoncé à travers David. Puis c'était dit que ça serait que Dieu donnera à David un descendant qui régnerait pour l'éternité. Ce descendant-là, c'est Yeshua, qui est le descendant de David, qui va s'asseoir sur le trône de David, son père, puis il va régner éternellement. Parce que son règne va durer tout le temps terrestre qui va rester, plus le temps éternel quand tout va être fini. Il va être encore le roi de la création. Puis Jérusalem, c'est la ville du grand roi. Dans Zacharie 14, le verset 10 et 11, ça dit « Tout le pays deviendra comme la plaine de Gibéa à Rimmon, au midi de Jérusalem, et Jérusalem sera élevée et restera à sa place. » Comme je l'ai dit, la Bible prédit un changement géographique dans ce territoire-là, puis elle va être élevée comme étant la ville élevée de la planète. Puis ça va, elle va rester à sa place. On parle de position physique, mais on parle aussi de position en autorité. Elle va être élevée en autorité, parce que c'est le Seigneur des Seigneurs et le roi des rois qui va siéger là, qui va être le roi de toute la planète. Il n'y aura plus de gouvernement comme qu'on voit aujourd'hui, puis qui font à leur tête, puis qui se rebellent contre l'autorité de Dieu. Ça va être l'autorité du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre. Puis ça nous dit au verset 11 que Jérusalem sera en sécurité. Il n'y aura plus de problème là. Puis toute la planète va vivre un règne de paix pendant ce temps-là. Pendant cette période sur la terre où le Seigneur va prendre possession de son règne, lors de son retour, il y a un autre événement que je n'avais pas encore parlé, que là je vous parle aujourd'hui, c'est que Satan et ses démons seront enchaînés et enfermés dans une prison durant le règne complet des milliers d'années du Seigneur. Le diable, tu ne l'entendras plus, il n'y a plus personne qui va l'entendre parler, nous chuchoter des affaires, nous mettre des pièges, des tentations, il n'y a plus rien, des épreuves, tout ça, ça va être fini. Il ne sera plus du tout sur cette planète durant le règne complet du Seigneur Jésus-Christ. Parce que présentement, la Bible a dit, le Dieu de ce siècle, c'est le diable. Présentement, c'est lui qui règne sur la terre. Même si Dieu règne sur les grands événements de la planète, Dieu a laissé quand même les nations à leur guise de faire ce qu'ils veulent. Puis le diable aussi, il peut faire peut-être pas tout ce qu'il veut, mais il demande des affaires, puis Dieu le laisse aller. Il est le Dieu de ce siècle, il est invoqué, il est prié, il est louangé, il est servi par du monde qui donne leur vie à Satan. Puis quand je dis à Satan, c'est pas juste à Satan, c'est aux démons, le diable, ses anges qui l'ont suivi, c'est des démons qui sont là, qui agissent dans les familles, qui agissent dans les gens individuellement, qui nous inspirent des pensées, puis nous font entrer dans le péché, dans la désobéissance, tout ça. Puis qui ont des projets aussi pour la planète. Parce que c'est Satan qui va rassembler le monde pour vouloir faire la guerre à Jérusalem, à la bataille d'Armageddon. Tous ces plans machiavéliques qu'on dit, là, on n'ignore pas ses desseins, on le sait ce qu'il pense, puis on le sait ce qu'il veut faire. Mais il va avoir un terme à cela. Il ne sera plus là quand Jésus va revenir prendre possession de son règne. Le diable va être pris, enchaîné, puis il va être mis dans une prison pour toutes les milliers d'années que le règne des mille ans va avancer. Dans Apocalypse 20, les versets de 1 à 3, ça nous parle de cela. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Je ne sais pas quelle longueur qu'elle a, mais elle est assez longue, pogner tous les esprits qui est démoniaque, il va tous les pogner puis les enchaîner avec. Puis là, il dit, il saisit le dragon. Le dragon-là, on le voit à plusieurs passages dans la Bible. Ça, c'est le diable lui-même, Satan, l'adversaire. Il saisit le dragon, le serpent ancien. C'est lui qui était là, qui a fait tomber Adam et Ève au début de la création. Ce serpent-là, c'est le diable, c'est Satan. Il va être saisi, ce dragon-là. C'est le serpent ancien qui est le diable et Satan. Il est appelé de tous ces noms-là. Et il le lia pour les mille ans. Il le jeta dans l'abîme. Ça, c'est une prison, cet abîme-là. Puis ferma et scella l'entrée au-dessus de lui afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après ça, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Je vous parlerai pas de suite du délit, de comment est-ce qu'il va être délié et qu'est-ce qui va se produire. Mais pour le moment, c'est de savoir que quand Jésus va revenir, les nations vont être anéanties, vont rester des survivants qui vont repeupler la terre. Mais Jésus va prendre possession de son règne, puis il y a un ange puissant qui va prendre Satan puis son armée, puis ils vont les enfermer pour qu'ils séduisent plus les nations. Séduire, là, c'est nous tromper, nous entraîner à faire d'autres choses que qu'est-ce que Dieu veut. Ils travaillent présentement, ces démons-là, à séduire le monde, puis séduire même les chrétiens, si les chrétiens se laissent faire. Mais il sera plus là. Fait que toutes les nations ne seront plus influencées par le diable. Fait que ça va, il y a des influences de prendre ce qui est à l'autre, des influences de faire du mal aux autres. Tout ce qui aura pu nous mettre dans la tête, ça sera plus là. Même les possessions, des fois, que les démons font de posséder une personne, puis il dit des affaires, comme quand Jésus était dans la synagogue, puis il y a un personnage qui a commencé à crier, « Tu es le Fils de Dieu! » Puis là, il criait contre Jésus. Puis Jésus, il a dit, arrière, il a dit, il l'a chassé, il a dit, tais-toi, puis sors de cet homme, puis l'esprit est sorti. Ça existe, ça, des gens possédés par ces démons-là, ça n'existera plus. Il n'y aura plus de cela. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Le diable n'est pas le Tout-Puissant. Son règne terrestre achève. Amen. N'oublions pas que l'armée de Satan a déjà été vaincue par Jésus à la croix. C'est juste parce que Dieu, il laisse le temps de continuer à faire certaines affaires pour qu'un plan s'accomplisse, mais Dieu a tout en contrôle. Satan est déjà vaincu. Dans Colossiens 2,15, ça dit, il, en parlant Jésus, il a dépouillé les dominations et les autorités, puis il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Il y a plus qu'un passage qui dit que Jésus les a vaincus, mais Jésus a vaincu et dépouillé les autorités qui sont ces démons-là. La victoire est déjà donnée, puis Jésus est déjà le roi, sauf qu'il n'a pas pris encore sa place, mais il va le prendre quand il va revenir. L'armée des ténèbres a aussi déjà été vaincue par les anges de Dieu et le diable, et ses démons ont déjà été précipités sur la terre. Parce qu'avant, ils siégeaient dans le ciel avec Dieu. Puis quand Jésus a remporté la victoire sa terre, ça a fait que Michel et ses anges ont combattu contre les démons qui étaient dans le ciel. Puis ils ont été vaincus, les démons, puis ils ont été garochés dehors. Ils sont jetés précipités sur la terre. Leur seul endroit qu'ils peuvent continuer à exercer leur méchanceté, c'est sur la terre, en attendant que Jésus revienne, puis que Jésus envoie son ange puissant pour le ramasser, Satan, puis l'enfermer et l'enchaîner dans sa prison qui est déjà faite pour lui. Puis n'oublions pas aussi qu'à la fin, son sort final à Satan, c'est que l'enfer, l'étang ardent de feu et de soufre, a été créé pour le diable puis ses anges. Puis il va être jeté là, lui tout, à la fin, quand Dieu va avoir fini de faire qu'est-ce qu'il a à faire. Puis ça dit aussi, tous ceux des humains sur la planète qui ont suivi le diable au lieu de suivre Dieu, vont se ramasser à la même place. Pour ça qu'on a tout à gagner de suivre Jésus. Dans l'Apocalypse 12, les versets 7 à 9, ça nous le disait, que ce que je viens de vous dire, qu'il y a eu une guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, puis le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, puis leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Ça mentionne bien que c'est pas rien que le diable qui a été dégommé. C'est les démons avec. Ces anges qui suivent Satan, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité d'ange puis leur rôle qu'ils avaient à faire devant Dieu, se sont rebellés, ils ont voulu suivre le diable dans sa rébellion, mais ils vont tous subir le châtiment du diable. Ce n'était qu'une question de temps pour que le diable se fasse dégommer de cette terre pour laisser la place au roi des rois et le seigneur des seigneurs. Un jour, Jésus va revenir, puis il va faire le ménage parmi les méchants hommes et aussi parmi les démons. Il va tous les ramasser, puis ils vont être enfermés. Fait que, qu'est-ce qui va rester sur la terre? Il va rester que des personnes qui vont vouloir suivre le Seigneur. Il n'y aura pas d'autres seigneurs. Ils seront plus mêlés puis séduits par le diable puis accusémenteries pour amener le monde à servir d'autres faux dieux. Il n'y a qu'un dieu, puis là, il va être révélé à tous. Ils vont le voir de leurs yeux. C'est Dieu le Père, puis c'est Jésus-Christ, puis le Saint-Esprit, c'est Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu sur toute la planète. Les gens, ils ne seront plus séduits pendant des milliers d'années. Fait que ça va être un nouveau régime. Puis la Bible, dans l'Ancien Testament, il y a un verset qui appelle ça « De nouveaux cieux, nouvelle terre sur cette terre ». Dieu va faire des changements, beaucoup de choses. Le ciel, à ce moment-là, quand le diable va être précipité, enfermé, dans sa prison, le ciel acclamera le Seigneur parce qu'il a saisi son règne par sa grande puissance. Dans l'Apocalypse 11, 17, ça dit « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était, et de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. » C'est le moment où ce que Jésus va prendre le contrôle, c'est lorsqu'il reviendra, puis il va revenir bientôt. Ça achève. On ne lâche pas d'y croire, puis de s'attacher à ces choses-là. Il faut s'attacher, frères et sœurs. C'est le jour de notre délivrance. Oui, mais on est déjà délivré. Non, on n'est pas encore délivré, on est encore dans notre corps. Tant qu'on va être dans notre corps, on est en péril. Puis tant que le diable va être là, on est en péril. Des problèmes, des difficultés, des tentations, des tromperies, des méchancetés, toutes sortes de choses qui peuvent nous arriver. Tant qu'on est au milieu d'un monde méchant comme qu'on est, on est en péril. Mais le Seigneur est avec nous, puis on a tout ce qu'il faut pour marcher dans la victoire, puis rester debout jusqu'à la fin. On obtient dans nos mains, là, puis il faut s'en rendre compte, moi, on a les plus grandes et les plus précieuses promesses qu'on ne retrouvera jamais nulle part ailleurs. Dieu nous donne de participer à la nature divine. On a le Saint-Esprit en nous, puis un jour, on va apparaître avec Jésus dans la gloire, puis on va être avec lui dans ce monde. Ça va être extraordinaire, ce nouveau monde-là, sur cette terre, sans compter l'autre qu'il va avoir après dans les cieux. Jésus prendra possession de son règne sur cette terre, puis il paîtra. Paître, c'est comme un berger qui est avec ses moutons, son troupeau de moutons. La planète va être son troupeau de moutons, puis Jésus va avoir son sceptre dans ses mains, c'est sa verge qui appelle ça, c'est le mot sceptre, c'est un bâton de roi. Puis il paîtra, il va paître les nations avec une verge de fer. Cette verge de fer-là, c'est un sceptre en fer. Le sceptre, c'est le signe de royauté. Paître, c'est l'idée qu'il est le Seigneur, le chef des brebis. Puis les brebis de la planète entière vont suivre le Seigneur. Pas juste les ressuscités. Il n'y aura plus d'autres dieux. Puis ils vont tous le voir de leurs yeux. Puis ils vont être contents de le voir. Puis d'aller le rencontrer à chaque fête qu'il va avoir dans ce monde. Il va y avoir des moments où on va aller rencontrer le Seigneur. On va le voir ça la semaine prochaine si Dieu le permet. Mais ça va être spécial. Jésus va avoir un sceptre en fer. Ça représente la fermeté, la solidité de son royaume. Ça représente que ça plie pas et ça cassera pas. C'est un royaume éternel que Jésus reçoit. Puis il va paître les nations d'une manière droite. C'est pas un bâton qui plie, là, tu sais, en voulant dire, oh, tu sais, ou être bâton qui est pas assez long. Il va conduire le monde dans la droiture puis la vérité. Ça dit, ça, tout ça pour accomplir une autre prophétie qui a été écrite dans les psaumes, dans le psaume 2, le verset 9, ça dit, en parlant de Jésus, tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Parce que quand Jésus va arriver, il va frapper les nations qui sont devant lui, les nations assemblées à Jérusalem, pour faire la guerre à Jérusalem, Jésus va massacrer cette armée-là qu'il va avoir là, parce que c'est le point final de l'histoire de l'humanité. Ça va être une nouvelle histoire qui va commencer, mais avec le règne du Seigneur. Tout le monde va confesser que Jésus est Seigneur à ce moment-là, de ceux qui vont rester. Mais ce qui est en cause extraordinaire comme promesse que Dieu nous fait à nous, qu'on ne mérite rien, là, qu'on n'est pas meilleur que les autres, tout était les cadeaux que Dieu nous a donnés. Tous ceux qui ressusciteront avec Jésus, paîtront aussi les nations avec la même autorité que le Seigneur. Dans Apocalypse chapitre 2, les versets 26 et 27, ça dit, « À celui qui vaincra, ça c'est les chrétiens qui vont avoir la victoire, et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. » Voyez-vous, j'en parle souvent de garder jusqu'à la fin ses œuvres. Jésus dit, « Je donnerai autorité sur les nations. » Alléluia! Jésus, il a l'autorité, puis il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, puis il va régner le seul sur la planète, puis il va donner à ses disciples ressuscités avec lui autorité, l'autorité du Seigneur sur les nations qui vont rester là. Il les paîtra avec une verge de fer. Nous aussi, on va administrer le gouvernement divin, dans l'autorité du gouvernement divin, comme Jésus le voudra. On va avoir des postes, on va faire des choses, on va être over la planète en voulant dire qu'on va être en contrôle des choses selon le plan de Dieu. On va diriger, puis on va obéir au Seigneur, bien entendu. Il n'y a plus de moyens qu'on marche contraire au Seigneur. Notre corps, on va avoir un corps qui ne pêche plus. On va être des gens extrêmement obéissants, puis on va avoir du plaisir à obéir au Seigneur sans obstruction, parce qu'aujourd'hui, on veut obéir au Seigneur des fois, puis on n'est pas capable parce que notre chair a fait des choses que Dieu veut pas. Mais on demande pardon, puis le Seigneur nous dit continue, relève-toi, puis avance. C'est de même le plan de Dieu. Mais rendu là, on va être des gens obéissants, puis on va être heureux d'obéir au Seigneur. Puis on n'aura plus rien qui va nous empêcher de le faire, puis on n'aura pas aucune influence des autres pour nous empêcher d'être ce qu'on va être, parce que Dieu va nous donner une position supérieure en autorité dans ce monde. Il n'y aura plus du monde qui s'ostine avec Dieu pour pouvoir faire quelque chose. Ça va marcher de même. Tout va marcher au doigt et à l'œil, comme Dieu le voudra. Puis on va paître les nations avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile. Fait que les vases que tu construis en argile qui sont plus bons parce qu'ils sont cassés, un coup de bâton en fer, ils cassent, ils pètent. Mais on va être comme ça, ça va marcher, ding, 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 comme ça doit marcher, mais dans l'amour, bien entendu. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Ça veut dire qu'il nous transmet réellement ce que lui a reçu de son Père, le pouvoir d'être le roi de la terre. Nous aussi, il va faire de nous des rois et des seigneurs. Nous allons être des rois. Quand Jésus, je n'ai déjà parlé de la parabole, il donne des talents à un, talent à l'autre, puis il dit qu'il n'avait reçu 5 talents, il était rendu à 10 à la fin de sa vie. Le Seigneur était content de son serviteur, il dit, tiens, reçois le gouvernement de 10 villes. L'autre n'avait eu 2, il était rendu à 4, reçois le gouvernement de 4 villes. Puis l'autre, il y en avait un qui l'avait enterré, lui, il n'a rien eu, puis il s'est fait enlever lui le talent, puis jeter-les dans l'internet du dehors. Voyez-vous, de garder les œuvres du Seigneur jusqu'à la fin. Il ne faut pas que Jésus retentit, puis qu'on est dans le péché, ou on a tout laissé tomber l'œuvre de Dieu, ou on va être rejeté. Il faut marcher dans l'obéissance, puis dans le service de Dieu, dans le contact avec Dieu, que nos lampes brillent tout le temps. Amen. Puis Dieu va nous récompenser. Puis il va nous donner l'autorité sur les nations comme lui, il a reçu cette autorité-là. Puis ça va être, je ne sais pas si ça devrait être peut-être valorisant. Quand tu es habitué toute ta vie au petit pain, là, tu travailles comme chauffeur d'autobus. Je donne un exemple. Mais Dieu va faire des chauffeurs d'autobus, il va en faire des rois puis des seigneurs. Il n'y a pas d'oncle des métiers qu'on fait là, aujourd'hui, mais c'est à eux comme vous donner une image. Peu importe le métier qu'on fait, Des fois, on est cultivateur puis on pète du caca. Mais tu es peut-être en train de péter du caca aujourd'hui, mais un jour, tu vas être un roi puis un seigneur. C'est peut-être incroyable, mais Dieu va nous donner aussi tout ce qu'il faudra pour administrer ce qui a été administré. Puis on va être là, puis on va être content parce qu'il nous a sortis de la boue, puis nous a emmenés nous asseoir avec les grands. C'est ce qui est le plan de Dieu pour nous. Nous avons reçu déjà dans la Bible plusieurs promesses que nous régnerons avec le Seigneur. Dans Romains 5, 17, ça dit, « Si par l'offense d'un seul, en parlant d'Adam, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce puis le don de la justice par Jésus, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul? » Voyez-vous, on a déjà eu d'autres promesses qui nous dit qu'on va régner avec le Christ. On va régner dans cette vie. C'est pas d'une autre vie, dans d'autres choses. Ici même, sur cette terre, on va régner avec le Christ ici, dans cette vie, ça nous dit. Y en a-tu qui sont en train de régner présentement? Je pense pas. Donc, elle n'est pas encore accomplie, cette promesse-là. Ça s'en vient. Quand Jésus va revenir, ça va s'accomplir. On va régner dans cette vie. Ouais, mais le gars est mort. Jésus va ressusciter tous ceux qui lui appartiennent. Puis on va régner avec lui. Cette promesse-là va s'accomplir comme l'autre. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Ouais, mais il est mort. Il va nous ressusciter. On va voir Dieu. On va voir Jésus de nos yeux. On ne l'a jamais vu, mais on va le voir physiquement. On va y serrer la main. On va l'embrasser. La première chose que je vais faire, moi, je pense, je vais l'embrasser. Je vais lui embrasser les orteils. Puis c'est le même qu'il faisait dans les temps anciens. Il s'humiliait devant l'autre, surtout que c'est le Seigneur des Seigneurs. Un autre verset dans l'Apocalypse confirme que de ce que Jésus a fait de nous, des sacrificateurs, puis qu'on va régner sur la terre. Dans Apocalypse 5, 10, ça dit, « Tu as fait d'eux un royaume, des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » C'est une autre promesse qu'on fait, qu'on va être des rois sur cette terre. On voit un autre passage dans les Écritures, dans l'Apocalypse. On voit dans l'Apocalypse une vision prophétique que les ressuscités recevront des trônes, puis aussi le pouvoir de juger. Dans Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 4. Et je vis des trônes. Là, Jean, l'apôtre Jean, il a eu une vision de l'Apocalypse. Il a une vision de ce qui arrivera dans le futur quand Jésus va revenir. C'est lorsque Jésus reviendra à la première résurrection. C'est à l'enlèvement. Je vis des trônes. Et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête et son image, qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front, sur leurs mains. On parle des chrétiens qui ont résisté jusqu'à la mort. Parce que quand tu t'engages à suivre le Seigneur, c'est jusqu'à la mort. Pas question qu'on reçoive la marque de la bête, ou si t'es dans un pays qui décapite le monde, pas question qu'on abandonne le Seigneur, c'est jusqu'à la mort qu'on suit le Seigneur. Mais ça dit, ils revinrent à la vie, puis ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Ces morts-là, ils vont revenir. C'est qui ça? C'est tous ceux qui sont morts depuis le temps de Jésus, puis même avant, à la résurrection. Tous ceux qui appartiennent au Seigneur vont ressusciter à la première résurrection. Ça va être écrit dans notre texte que je vous lis dans l'autre verset. On va revenir à la vie, à la première résurrection, puis on va régner avec le Christ pendant les 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Manquez pas la première résurrection. Il n'y a pas première résurrection 1.5. Il y en a juste une. Il n'y a pas deux étapes dans la résurrection. C'est lors de l'enlèvement, il nous ressuscite, il ressuscite les morts. C'est un seul événement. Manquez pas cet événement-là. Soyez prêts pour le jour où Jésus va paraître. Parce qu'il dit heureux ceux qui sont Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, puis ils régneront avec lui pendant les 1000 ans. Parce que là, dans cette traduction-là, on voit 1000 ans, mais dans d'autres versets, on voit les 1000 ans. C'est le chiffre que là, c'est un chiffre au pluriel, le 1000. Tu vas voir dans le grec, c'est les 1000 ans. Il faut s'attendre à un règne long. Ça fait déjà combien de 1000 ans, je ne sais pas, mais depuis le début de la création, ça fait 6000 ans d'histoire. Puis à la fin, bien, il va en avoir une longue période que Dieu va régner. Puis nous, on va ressusciter, puis il va faire de nous des sacrificateurs de Dieu et de Christ, puis ils régneront avec lui. Ils régneront avec lui. Dieu a des projets, quand la prophétie a dit, j'ai des projets pour toi, j'ai un avenir pour toi, il y a une prophétie qui dit ça l'Ancien Testament, que Dieu a de l'avenir pour ses brebis, il a des plans. Dieu, ben, ce plan-là va être grandiose quand il va faire de nous des rois et des seigneurs. Dieu nous a annoncé aussi, puis il faut pas s'étonner de cela, qu'on finisse à rentrer là un jour. La Bible a dit, dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 2 et 3, que nous, les chrétiens, on est appelés à juger le monde, puis à juger les anges, en tant que dans l'autorité du Seigneur. On voit ça dans 1 Corinthiens 6, les versets 2 et 3. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? C'est qui ça, les saints? C'est nous. Dieu va servir de nous pour juger les nations. Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Fait que ce passage-là nous dit qu'on va juger le monde, puis on va juger les anges déchus. Dieu va servir de nous dans le poste qu'il va nous donner pour être des juges. C'est ce que ça disait dans l'Apocalypse. Et je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Puis ça dit que nous, on va juger le monde dans l'autre verset, puis on va juger les anges. Fait que Dieu va servir de nous, puis là on va se dire, ouais, mais comment je vais faire? Dieu va nous équiper de tout ce qu'on aura besoin de savoir. Quand on va arriver à l'autre bord, on va être un corps transformé, mais aussi on va avoir une intelligence renouvelée, puis on va avoir nos connaissances qu'on a besoin d'avoir sans obstruction. Dieu va nous donner tout ce que ça nous prend pour pouvoir faire les nouveaux défis comme ouvrage qu'on aura à faire pour lui. Le Seigneur redémarrera la vie sur cette terre pour des milliers d'années. Et maintenant, écoutez-moi bien, il invite les gens avant qu'il soit trop tard. L'Apocalypse, là, il y a dans le dernier verset, dans les derniers versets, ça dit que celui qui entend dise viens. Parce que Dieu parle au cœur. Quand les personnes sont touchées, puis ça lui donne comme un intérêt d'entendre les choses de Dieu, de parler de Jésus. Dieu il travaille les cœurs. Je sais qu'il y en a qui résistent puis qui tassent ça, là, cet appel-là. Mais faut pas tasser ça. C'est Dieu qui nous appelle parce qu'on est dans un temps très pressant. Ça achève. Très bientôt, ça va être fini puis il va être trop tard. La porte va être fermée. Le retour du Seigneur va se faire ou peut-être qu'on va mourir avant. Ce sera encore plus vite fait. Mais on va tous mourir puis on va être tous à rencontrer Dieu. Il faut être prêt. Il y a un autre verset qui dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. T'es mieux d'arriver là pardonné que d'arriver là dans tes péchés. Parce que t'es dans tes péchés, tu pourras pas rentrer. Tes péchés vont t'empêcher de rentrer dans le ciel. » Ce qu'on entend dans les chansons modernes aujourd'hui, tout le monde va aller au ciel, puis tout le monde va aller au ciel, puis blablabla. Toutes les religions inventent toutes sortes d'affaires. Pas vrai, ça. C'est pas tout le monde qui va aller au ciel. Le ciel appartient à Dieu. Puis avant de rentrer là, il faut que tu aies fait la paix avec Dieu, parce que là, tu es un ennemi de Dieu en marchant dans nos péchés. Là, on marche dans désobéissance, on devient ennemi de Dieu, puis on est sale, notre âme est tout sale, tout beurré à cause de nos péchés qu'on a faits. Puis il faut qu'on soit lavé de nos péchés, sinon nos péchés nous empêchent d'entrer. On rentre pas par défaut. Par défaut, on est rejeté. Il faut absolument aller à Jésus pour recevoir le pardon, puis là, on va pouvoir entrer. Le pardon s'obtient à cause que Jésus a payé le prix que ça coûtait pour recevoir le pardon. Il a fallu qu'il meure sur la croix, qu'il prenne, qu'il subisse la mort, mais il n'était pas obligé de mourir, lui. Il n'avait pas fait de péché, mais il est mort à notre place. C'est moi qui aurais dû mourir pour mes péchés. Puis pas juste la mort physique, la mort éternelle. Mais Jésus, que lui n'avait pas fait, le seul innocent de la planète, a pris la place des coupables. Il a décidé de payer la dette du péché en mourant lui-même pour payer cette dette. Puis c'est encore une preuve pour dire que quand on offense Dieu, là, on offense Dieu par nos péchés. Il fallait absolument que ce soit Dieu qui décide de faire quelque chose pour nous pardonner. Moi, je n'aurais pas pardonné un péché que tu as fait à Dieu. C'est Dieu qui peut te pardonner. C'est pour ça que ça prenait absolument que Dieu vienne pour payer la dette des péchés. C'est lui qui est mort sur la croix pour nous. Il a payé mes péchés, puis il est mort. Ça coûtait la mort. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Jésus a payé la mort à ma place, puis à votre place. Il a payé la mort pour toute l'humanité. Là, il appelle tout le monde de l'humanité à se repentir et à dire au Seigneur, « J'y crois que tu es mort pour moi, puis je sais que je suis pécheur, puis je te demande pardon, je te donne maintenant ma vie, je veux te suivre, je veux te servir pour le reste de ma vie. » C'est ça qu'on est appelé à faire. Tout le monde sur la planète devrait être en train de servir le seul Dieu vivant, le Créateur. C'est Dieu. On devrait tous être à genoux devant Dieu sur la planète. Mais les gens qui ne plient pas le genou, ils résistent à l'appel de Dieu. Bien, je parle à tous ceux qui m'entendent, là. C'est le temps aujourd'hui d'accepter Jésus, puis de vous engager à le suivre, pour que vous puissiez être sauvés, puis que Dieu va vous utiliser par la suite à sauver d'autres personnes, parce que Dieu va en sauver le plus grand nombre. Puis les places ne sont pas limitées. Tout le monde pourra se repentir sur la planète, si tout le monde le voudrait. Ça nous dit dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, quiconque, c'est n'importe qui croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ça veut dire que si tu y crois là, que Jésus il est mort le 2000 ans pour toi, puis tu le crois qu'il est ressuscité, tu es un candidat déjà appelé à dire « Je veux être sauvé », puis tu vas le saisir, tu vas le prendre pour toi. Je vous encourage à faire cette prière avec moi pour pouvoir recevoir Jésus comme votre sauveur personnel. Prions ensemble. Père, je reconnais que je suis un pécheur, que je suis perdu, mais je sais que Jésus-Christ, il est mort sur la croix. Il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne. Je veux te suivre, te servir tous les jours de ma vie. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière, sachez que Dieu vous a entendu. Dieu il est là à côté de vous. Puis là, à cause que vous avez fait cette prière sincèrement, il vous a pardonné vos péchés, puis il est entré dans votre vie, puis il y a une nouvelle vie qui vient de commencer. La Bible appelle ça la nouvelle naissance, c'est naître de nouveau. Tu repars à zéro. C'est comme si le char, qui était un char usagé avec beaucoup de millage, le reset était mis, puis c'est retombé à zéro le millage. Tu as une nouvelle vie qui commence, tu n'as plus de péché, il est voué plus, il les a toutes pardonnés. Maintenant, marche avec le Seigneur, sers le Seigneur. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Va dans une église évangélique pour entendre prêcher la parole de Dieu. Va aussi sur des sites Internet qui prêchent la parole de Dieu. Il y a mon site, publicationévangélique.com. Il y a aussi, c'est sur Facebook, c'est aussi sur YouTube. Il y en a partout des places où ce que la parole de Dieu est annoncée. Marche avec le Seigneur jusqu'à la fin, puis il y a une couronne qui nous attend. Parce que Dieu va couronner les vainqueurs. Amen. Gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom. Amen.